C'est un cours de 4h15. C'est long pour vous, pour moi. Vous entendez malgré le masque ? Tout ce que je vais vous montrer là, c'est déjà sur le portail. Toutes les photos, évidemment, quand il y a des animations, comme c'est un PDF, ça ne bougera pas, mais à part ça, c'est déjà sur le portail. Normalement, il y a trois cours qui se suivent. Il y a celui-là, il y a la chaleur terrestre, il y a la tectonique des plaques. L'ordre n'est pas forcément l'ordre le plus logique, c'est un peu conjoncturel. Parce que, par exemple, Patrick et moi, on est sur le terrain avec les L3 la semaine prochaine. Donc, on ne peut pas faire ce cours la semaine prochaine. Enfin, lui, s'il en a faim, moi. Donc, c'est moi qui commence. Mais sachez que le total, les trois cours, feront un tout. Et vous êtes assez grand et pas complètement géologiquement vierge pour pouvoir faire les liens entre eux. Donc, on va parler de la convection mantellique. C'est écrit là. Alors, pour mon pointeur, hein, c'est la flèche lumineuse que vous voyez. Vous la voyez bien ? Grosse et violette. On va parler de la convection mantellique, qui est, c'est sûr, le moteur de la tectonique des plaques. Mais l'expérience m'a montré que c'est très souvent évoqué. C'est un mot magique, ah, c'est de la convection. Mais c'est très souvent très mal compris. Peut-être même, il ne faut pas le dire, par certains membres du jury. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, il y en a qui aiment bien les plans touffés. Donc à chaque fois qu'on changera de partie, il y aura le plan. Là, pour tout vous dire, je suis dans l'introduction. Et après, il y aura une première, deuxième, troisième, etc. partie. La quatrième et la sixième sont optionnelles. A priori, j'aurai le temps de les faire. Si jamais j'avais pas le temps, on enchanterait soit la quatrième, soit la sixième. Alors, l'enfer, vous connaissez tous l'enfer, de réputation, c'est, comme chacun sait, au centre de la Terre. Chez les anciens, le centre de la Terre, c'était chaud, c'était terrible. Quand on avait des mines, même au Moyen-Âge, il y avait des mines, quand on s'enfonçait, ça se réchauffait. En Italie, au moins, il y avait des volcans qui crachaient de la lave. Le centre de la Terre, c'était l'enfer. Et c'était liquide, c'était une marmite de feu glougloutante, c'était terrible. Et il y a des représentations artistiques qui montrent l'enfer, et là, les méchants qui vont en enfer. Quand je peux, je montre des photos artistiques. Alors, le nouveau programme, je ne sais pas, mais l'ancien qui s'est achevé l'an dernier, en terminale, il recommandait, dans la mesure du possible, d'évoquer, dans toutes les disciplines, des choses artistiques. Donc, il fallait faire de la physique et évoquer de l'art, je montre de l'art. Alors ça, c'est l'enfer, le centre de la Terre, c'est liquide. Une autre vision de l'enfer, ça c'est un challenge, à chaque fois que je fais un cours, il faut que je montre une photo à caractère sexuel, pas toujours facile quand on a un cours sur la convention mantellique. Alors là, je vous montre le portail de la cathédrale de Bourges, pareil, hein, les méchants, les damnés, qui rentrent en enfer, le feu central, c'est terrible. Alors ça, c'est l'enfer des géologues, le feu central, mais avant de rentrer dans l'enfer, ils sont quand même tourmentés, les méchants, et voici l'enfer des biologistes, ce monsieur se fait méchamment enfiler par un démon cornu et bien monté. Ça, c'est l'enfer des biologistes. Ça, c'est le centre de la Terre imaginé au XVIIe siècle. C'est le feu. Et ça sort par des volcans. Je trouve que ces volcans ont une drôle de... Là, je trouve que c'est une gueule de dragon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi qui ai dessiné ça. Voici le centre de la Terre. La version du XXIe siècle, hein, Fusion the Core. Vous avez peut-être déjà vu ce film qui est un excellent navet. Et voilà, c'est liquide à l'intérieur. Et voilà, c'est extraordinaire. Vous avez déjà vu des... représentation comme ça. Et pourtant, j'ai mis, et pourtant, c'est depuis le 17 avril 1889, ça fait bientôt pas mal d'années, que ce monsieur a mis en évidence que la Terre était solide, au moins tout le long du trajet Tokyo-Potsdam. On venait d'inaugurer le Transsibérien, et une ligne téléphonique, on pouvait téléphoner, ou télégraphier plutôt, de Tokyo à l'Europe. Potsdam, c'est dans la banlieue de Berlin. Et le 18 avril, il y a eu un tremblement de terre important à Tokyo. Un sismologue japonais a vite envoyé un télégramme à un collègue. Alors le télégramme est arrivé le 17 avril, c'est à cause de la ligne de changement de date et tout ça, c'est pas qu'il est arrivé la veille. Et il a dit, attention, il y a un gros tremblement de terre, regarde bien tes sismographes si tu vois quelque chose. les ondes, la radio, enfin le télégramme, ça va plus vite que les ondes sismiques, et il a vu arriver quelque chose, en particulier des ondes S. Alors, voilà le sismogramme historique de Pastwick. Là-dedans, il a quand même vu, je ne sais pas comment, des ondes S. Il y en a peut-être d'autres après. Or, les ondes S, on savait déjà à l'époque que c'était arrêté par les liquides. Donc, sur le trajet Tokyo-Berlin, qui passe quand même, en supposant que les ondes se propagent en ligne droite, ce qu'on supposait à l'époque, c'est quand même descendu, si ça, ça fait 6000 km, c'est quand même descendu presque à 2500 km de profondeur. Sur le trajet, l'intérieur de la Terre est solide. 1889. Et pourtant, voici un article du National Geographic Magazine, 2011, ça fait que 10 ans, c'est pas vieux. Et c'est pas la plus mauvaise des revues de vulgarisation, le National Geographic Magazine. Vous avez un beau schéma de la Terre, et là, ils expliquent le manteau, alors j'agrandis ce qu'ils disent. Le manteau, la chaleur fait circuler la roche liquide du manteau. La chaleur vient en majeure partie des isotopes radioactifs. Donc il y a 10 ans, il y a encore des gens, ça ne gêne absolument pas, 120 ans après qu'on ait découvert que l'intérieur de la Terre soit solide, enfin découvert, qu'on a eu la confirmation sismologique que l'intérieur de la Terre était solide, qu'il y a encore des gens. Et ça, quand vous serez prof, c'est inscrit dans le subconscient des élèves. Ils ont vu des machins, des films, l'intérieur de la Terre est liquide, et il faudra que vous luttiez contre ça. Votre collègue prof de géographie le dira. À la télévision, on voit des gens qui font dériver les plaques sur un magma, etc., etc. Donc faites très attention, vous aurez à lutter contre ça. On sait maintenant depuis au moins un siècle qu'un solide, ça peut se déformer. Alors dans le temps, c'est facile, pour montrer qu'un solide se déformait, on prenait un fer à cheval chauffé au rouge. C'était solide, un fer à cheval chauffé au rouge. Mais si on donnait des grands coups de marteau dessus, il sortait de la forge, et bien on pouvait le façonner, et parce que ça se déforme. Plus beaucoup d'élèves savent comment on façonne un fer à cheval. Alors on peut montrer que des glaciers, ça déforme, des glaciers c'est solide, mais ça coule. Alors il suffit, on va voir si ça marche, il suffit de prendre une photo, mettons, tous les jours, et puis de faire passer les photos en accéléré. Et vous voyez qu'un glacier c'est solide, il y a des crevasses, si vous tombez dessus, vous vous cassez le crâne, c'est pas le glacier qui plie, hein, c'est votre crâne qui casse. Un glacier solide, ça avance parce que les solides, ça se déforme. Alors ça, c'est une vue satellite dans l'Himalaya. C'est un des plus longs glaciers de l'Himalaya qui fait 62 km de long. Il y a une photo satellite prise tous les jours quand il n'y avait pas de nuages de 1990 à 2015. Et vous voyez le glacier avec des gros blocs noirs qui avancent. Et ça tourne. Là, voilà un détail. Alors évidemment, c'est accéléré beaucoup de fois, mais un glacier... Alors, beaucoup de photos que j'ai là, par exemple celle-là, vous pouvez les trouver sur un article de... Alors là, j'ai toujours mis l'adresse qui est écrite en petit, mais c'est souvent également sur Planète Terre. Ça, vous pouvez le trouver sur Planète Terre, là, c'est une image GIF, donc le demander le jour J, quelque part vers fin juin. Alors, il y a très longtemps que les géophysiciens, pas les géologues, mais les géophysiciens font convecter le manteau. Je vous ai mis quelques schémas qui date de 1928, 1935, 1958, 1960, prenez celui-là, 28, eh bien, des géophysiciens font convecter le manteau. Pourquoi est-ce que des géophysiciens font convecter le manteau alors que les géologues, pas du tout, à l'époque? C'est parce que, et ça vous le savez, il sort de la chaleur de la Terre. Depuis, on va dire, les Romains ou les Égyptiens, on sait que quand on s'enfonce, il fait de plus en plus chaud, en moyenne sur les continents 30 degrés par kilomètre. Alors les Romains ne comptaient pas ni en kilomètres ni en degrés, mais ils voyaient quand il y avait des mines, il faisait plus chaud. Alors les Romains n'y avaient pas pensé, mais les roches n'étant pas des isolants parfaits, ça conduit un peu la chaleur, la roche, sinon on n'aurait pas besoin de problème d'isolation pour les maisons, on ferait des maisons de pierre, et il n'y aurait pas des fuites de chaleur. Donc les roches conduisant la chaleur, s'il y a une différence de température entre le haut et le bas, comme les roches conduisent de la chaleur, il y a la chaleur qui sort. Donc c'est très facile, vous mesurez la température à deux différentes profondeurs, mesurez la conductivité des roches, thermique des roches, ça peut se faire en TP de physique, et vous regardez la chaleur qui sort. Et en gros, c'est des milliwatts, donc c'est une puissance, c'est-à-dire des millijoules par seconde et par mètre carré. Les watts, c'est des joules par seconde. Faites attention, des watts, c'est des puissances. Souvent, les gens parlent d'énergie. Peut-être même que des fois j'aurais fait une faute. L'énergie, c'est des joules, les watts, c'est des joules par seconde, c'est une puissance. Tant qu'à faire, prenez les bons mots. Et en moyenne sur la Terre, il sort à peu près 60 milliwatts, pour beaucoup milliwatts, par seconde. Alors il y a des endroits où il en sort plus, il y a des endroits où il en sort moins, mais en moyenne 60 milliwatts, c'est-à-dire millijoules par seconde et par mètre carré. Alors je vous signale que beaucoup de gens s'imaginent que cette chaleur c'est important, je sais pas, c'est important, mais c'est totalement négligeable par rapport à ce qu'on reçoit du soleil. Quand vous êtes en plein soleil, couché sur une plage, comme vous faisiez il y a un mois ou deux, vous recevez en gros 1000 watts par mètre carré. Et 60 milliwatts, c'est 5000 fois moins. Donc la chaleur venue du bas sur la Terre, c'est à peu près 1/5 millième de la chaleur venue du haut. Ce qui règle le climat de la Terre, ce n'est pas le degré géothermique, c'est le soleil. Quand vous avez froid, vaut mieux vous mettre en plein soleil que coucher à poil plaqué au sol dans le fond de votre cave. C'est logique, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas intuitif. Donc il sort de la chaleur. Alors ce n'est pas le sujet de cette conf, mais une bonne moitié, enfin une moitié environ, alors on discute, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 60%, une moitié de cette chaleur vient de la radioactivité naturelle. Et les quatre isotopes radioactifs qui produisent le plus de chaleur, c'est le potassium-40, le thorium-232 et les deux uraniums. Donc il y a de la chaleur qui sort, et il y a des mouvements. Alors je ne vais pas vous démontrer qu'il y a des mouvements, vous aurez des cours sur la tectonique des plaques, vous en avez tous déjà eu. Là, vous avez une vieille représentation historique, quasiment, où vous avez les mouvements relatifs avec des zones où ça s'écarte, des zones où ça se rapproche. Alors, cette carte insiste sur les reliefs. La même chose qu'insiste sur les mouvements relatifs. Comme c'est une carte américaine, ils ont bien insisté sur la faille de San Andrea, comme si elle était plus importante que la faille nord-anatolienne, je sais pas. Bon, quand même. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ce soit américain et écrit en français. Mais enfin, bon, passons. Donc, il y a des mouvements. Il y a de la chaleur, et quand un physicien voit, pense mouvement et chaleur à la fois, il pense convection thermique. Alors j'ai mis convection thermique parce qu'il y a 36 sortes de convection. Il peut y avoir de la thermique, il peut y avoir de la chimique, il peut y avoir de certaines personnes, quand il y a des mouvements entraînés par un, entre guillemets, un moteur, il parle de convection aussi, mais c'est surtout thermique et chimique en sciences de la Terre. Connaissez un exemple de convection chimique ?
Le sel dans la mer.
J'entends pas.
Le sel dans la mer.
Quand, pour une raison ou pour une autre, vous salez de l'eau de mer en surface, elle devient dense et elle tombe en bas. Donc, c'est de la convection. Thermique, pas thermique, mais... Alors, si en plus elle est froide, elle peut être thermo-aline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que sinon j'ai mal à la gorge à la fin. Alors ça, c'est la convection à grande échelle, hein, ça bouge comme ça. Il y a également des remontées beaucoup plus ponctuelles de matière chaude, qu'on appelle les points chauds, qu'on verra aussi, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est aussi de la convection. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la convection dans le manteau. Je vous définirai pas le manteau. Il y en a aussi dans le noyau, je n'en parlerai pas. Il y en a aussi dans l'atmosphère, je n'en parlerai pas. Il y en a aussi dans l'océan, je n'en parlerai pas. Il y a des convections beaucoup plus limitées. Quand vous avez un système hydrothermal, par exemple un granit qui se met en place dans une chaîne de montagne, ça fait une source de chaleur, et ça fait monter toutes les eaux qui sont à côté. Et puis s'il y a des eaux qui remontent, il y en a des qui descendent. Donc tous les systèmes hydrothermaux, océaniques comme continentaux, c'est de la convection aussi. Il y a plein de façons de convection sur Terre. Et il y a toujours, en général, une leçon, option ou contre-option, qui s'appelle la convection terrestre, ou sur la grande Terre. Il n'y a pas que la tectonique des plaques. Hein. Il y a également, par exemple, la convection atmosphérique. Donc, nous, on va parler que de ça. Et ça se fait, bien sûr, à l'état solide, et on le sait depuis 1889. Sur ce, j'ai dit qu'on le sait depuis 1889, on le sait avant. Newton a calculé toutes les forces avec ses équations des marées, et dès le début du 19e siècle, on avait toutes les valeurs, toutes les constantes, et on pouvait donc calculer comment la Terre se déformerait à cause des marées, l'action de la gravité de la Lune et du Soleil. Si la Terre était une boule de liquide enveloppée d'une mince couche solide, ce que me racontait ma maman, elle disait la Terre c'est comme un œuf, l'intérieur c'est liquide, et il y a une coquille solide, la croûte sur laquelle on marche. Peut-être que votre maman vous a dit ça, ou votre instituteur. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que quand on fait ça, la Terre devrait être déformée par les marées énormément. ce qu'on ne constatait pas. Elle l'est un petit peu, mais en 1800, on ne le constatait pas. Donc, on avait calculé dès 1800 que la Terre avait globalement la rigidité d'un bon acier. Mais c'était les physiciens qui faisaient ça. Les naturalistes ne parlaient pas à ces gens-là, et réciproquement. Alors, tous ces machins, la chaleur qui sort, les mouvements, je ne vous dis pas comment on les a mis en évidence, vous le savez déjà, vous aurez d'autres cours. Entre 60 et 70, c'est l'époque où j'étais au lycée, toutes ces observations ont donné lieu à ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Alors je vous ai mis deux schémas que j'ai piqués sur le web, et vous en avez déjà vu des comme ça, je pense. J'ai peur que vous ayez vu des schémas comme ça. Parce que ces schémas étaient parfaitement légitimes quand j'étais au lycée, parce qu'il fallait convaincre une communauté de naturalistes réticents, mais ces schémas sont extrêmement maladroits et pleins d'horreurs et de sous-entendus totalement erronés en 2021. On les reprendra à la fin, et vous verrez qu'un schéma de ce type-là, c'est une abomination. C'est dessiner un mouton avec trois pattes, deux anus, quatre oreilles et 18 poumons. C'est absurde. Mais ça ne gêne pas beaucoup. Parce que la tectonique des plaques est née à peu près en 67-68. Il y a eu deux congrès fondateurs, ils disputent. Et comme tout, eh bien, elle a bien changé. Regardez, en 54 ans, la liste des présidents de la République qu'on a eue. Ben, la tectonique des plaques, c'est pareil. On avait celui-là en 67-68, maintenant on a celui-là. Mais la manière dont la tectonique des plaques est vulgarisée, présentée, enseignée, est restée souvent quasiment figée. Avez-vous des questions sur cette introduction? Non. Alors, la première partie, mais n'ayez pas peur, on va faire un peu de physique. C'est la physique de la convection thermique. Qu'est-ce qui fait bouger les plaques? Ben, c'est un grec qui fait bouger les plaques, qui a le joli petit nom d'Archimède. On dit qu'un jour, en prenant son bain, c'est une légende, eh bien, il s'est rendu compte que tout corps plongé dans ce fluide recevait de la part de ce fluide une poussée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. C'est pour ça que dans l'eau, comme on est quasiment constitué d'eau, on ne pèse presque rien, parce que on a notre poids, évidemment, mais on reçoit de la part de l'eau une poussée égale au poids du volume déplacé. Si vous mettez dans un liquide beaucoup plus dense, je ne sais pas, l'eau de la mer Morte, par exemple, eh bien, la poussée d'Archimède étant supérieure à votre poids, vous flottez. Si vous vous mettez dans un fluide très léger, alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Un bain d'huile, par exemple, ben on coulerait. Donc, capital de savoir la poussée d'Archimède. De mon temps, c'est un problème de seconde en physique. Vous avez déjà vu la poussée d'Archimède? En quelle classe? Première. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, de l'air très froid, par exemple, si vous avez un pot plein d'azote liquide, l'air est froid, l'air froid, ça descend. Parce qu'il est plus dense et plus lourd que l'air tiède, donc il a un poids qui est supérieur à la poussée d'Archimède, il descend. Si vous voulez de l'air chaud, ça a un poids, l'air chaud. Une montgolfière, ça a un poids. Mais l'air chaud étant moins dense que l'air environnant, la poussée d'Archimède, le poids de l'air chaud est inférieur au poids de l'air froid, donc la poussée d'Archimède est supérieure au poids, donc grâce à Archimède, une montgolfière, ça monte. Et bien c'est ça qui fait bouger les plaques. C'est ça le moteur de la convection thermique. Alors avant d'aller plus loin, on va faire quelques hypothèses, très simples. On va toujours supposer qu'on est en régime stationnaire. La Terre a 4,5 milliards d'années. On pense qu'on vit une époque normale, qu'on n'est rien d'exceptionnel. Qu'on est en régime stationnaire, c'est-à-dire que la production de chaleur, une bonne moitié faite par la radioactivité, est compensée par des pertes d'égale chaleur. C'est comme un bœuf carotte qui mijote doucement, vous chauffez doucement, la chaleur s'évacue par le sommet et les côtés, et votre bœuf mijote à 95 degrés. Et ça peut mijoter pendant très longtemps. Donc, on va supposer à chaque fois qu'il y a production et perte de chaleur d'égale valeur. Perte de chaleur, c'est comme s'il y avait une source de froid. Alors, comment est-ce que la chaleur se transmet dans les corps opaques? Le manteau est opaque. Il est évident que tout ce que je vous dis sur le manteau sera complètement à modifier très fortement si on fait la convection de l'atmosphère. L'atmosphère n'est pas opaque. Enfin, pas pour toutes les longueurs d'onde, en tout cas. Donc, ça change tout. Mais là, on va supposer que les roches, c'est opaque, on néglige la transmission par rayonnement. Alors on va supposer un corps indéformable. J'ai mis des guillemets indéformables, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Par exemple, une brique, prenez une brique. Et vous mettez votre brique sur des braises chaudes, parce que vous faites un barbecue, ou sur un lit de glaçons, parce qu'à côté, vous avez une bassine avec de la glace pour faire refroidir vos boissons. Votre brique, posée sur du chaud ou posée sur du froid, ben la chaleur va passer du chaud au froid. Et le froid va passer du froid au chaud. Le froid qui passe du froid au chaud, c'est comme si la chaleur, dans l'autre sens, hein. C'est symétrique. Et cette transmission de la chaleur, qui peut se faire vite dans des corps conducteurs, un métal, lentement dans les corps isolants, c'est simplement la chaleur, c'est un corps est chaud quand ses atomes, ses molécules, ses cristaux vibrent, et c'est la transmission de proche en proche d'une vibration. Vibration, ça vibre beaucoup là, ça vibre pas beaucoup là, et la vibration se transmet de proche en proche, un peu comme dans une foule, une rumeur. C'est une foule, je m'approche du plus proche de moi, je dis, cette année, il y aura 350 places à la grecque. Et sans se déplacer, il va dire ça à ses voisins, et progressivement, la nouvelle, cette année, il y a 350 places à la grecque, va se transmettre de la source informée à la source la moins informée, qui est en haut, là-bas. Donc, c'est une transmission, mais sans déplacement macroscopique. L'information, il ne sera pas déplacé. Bon, il est un peu bête, il aurait pu le dire tout fort, mais enfin, il le chuchote. Alors, deuxième cas, le corps est déformable. Par exemple, de l'air. C'est déformable, de l'air. Mais vous avez... Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de déplacement de matière, que le gradient soit normal ou anormal. Qu'est-ce que c'est qu'un gradient densité normale? Si vous avez une brique qui est posée sur des glaçons, le bas de la brique est froid, le haut de la brique, il a la température de l'atmosphère, 20 degrés. Quand c'est froid, c'est plus dense que quand c'est chaud, parce que ça, c'est un peu contracté. Et là, c'est l'inverse. C'est moins dense en bas, parce que c'est posé sur des braises, et c'est plus dense en haut. Si c'était déformable, le dense descendrait, mais comme c'est pas déformable, il descend pas. Donc ça, c'est un gradient inverse, c'est pas stable. Et ça, c'est un gradient stable. Si vous avez de l'air tout à fait déformable, et qui pour un phénomène météorologique quelconque, qu'on appelle une inversion de température, ça arrive de temps en temps, par exemple dans la chaîne des puits, il fait froid en bas et chaud en haut. Eh bien, ça ne bouge pas. Alors, il y a un peu de chaleur qui peut passer par conduction, mais l'air qui est chaud, il est moins dense. Comme il est moins dense, il n'a aucune envie de descendre. Et l'air qui est froid, il est en bas. Comme il est froid, il est dense, il n'a aucune envie de monter. Mettez de l'huile et du vinaigre, le vinaigre est en bas, il ne va pas monter spontanément. Et ça peut faire des beaux paysages où vous avez une mer de nuages en bas. Là, c'est de l'air froid, là, c'est de l'air chaud. Petit problème, c'est que si là-dessous, il y a la ville de Clermont-Ferrand, et il y a la ville de Clermont-Ferrand, avec des usines Michelin qui polluent, eh bien, la pollution reste en bas, et les habitants de Clermont-Ferrand sentent le pneu. Enfin, sentaient maintenant, on ne fait presque plus de pneus à Clermont-Ferrand. On les achète en Chine. Alors, troisième cas, le corps est déformable, comme de l'air, mais le gradient est inverse. C'est-à-dire que c'est chaud en bas et froid en haut. C'est le cas, par exemple, si vous avez une inversion de température, mais qu'il y avait une source de chaud ponctuelle. Là, un jour, j'étais en avion, j'allais de Paris à, je ne sais plus où, Lisbonne, et on survole les centrales nucléaires de la vallée de la Loire. Et là, il y a une centrale nucléaire avec une source de chaud. Une source de chaud, ça fait un panache chaud, et la vapeur, c'est ce qu'on voit, mais l'air chaud monte. Parce que ce n'est pas stable qu'on ait du chaud en bas et du froid en haut. Gradient inverse, il y a des mouvements. Gradient normal, il n'y a pas de mouvement. Donc un système convectif, il faut que le gradient soit inverse. Et voilà comment ça se passe. Fais attention de ne pas déranger la caméra, hein. Tu te mets ailleurs. Un système convectif, théorique. Ah mais tu peux descendre, il y a des places libres en bas, hein, non? Parce que là, fais comme tu veux, mais tu ne choisis pas la solution la plus simple. Voilà un système convectif expérimental. Vous avez ici une plaque qui est maintenue chaude. Par exemple, là, une plaque qui est maintenue froide. Là, par exemple, vous avez une petite résistance électrique. Là, vous avez des glaçons. Des parois isolantes. entre les deux, un liquide. On va se mettre, par exemple, une molécule d'eau qui est au contact de la source froide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le liquide est relativement isolant, hein, c'est de l'eau, par exemple. Ce n'est pas un très bon conducteur de la chaleur, l'eau. Cette eau va se refroidir, puisqu'elle touche une plaque froide. Au bout d'un moment, elle sera suffisamment froide pour être suffisamment dense, et paf, elle va couler. Quand elle va couler, elle va quitter le contact avec la source froide. Elle ne la touchera plus. Donc elle ne perdra plus de chaleur qu'elle donnera à la source froide, donc sa température restera constante. Elle va descendre à température constante. C'est exactement l'inverse en bas, vous avez de l'eau au contact de la source chaude, elle est au contact, elle se réchauffe. À un moment, elle est suffisamment chaude pour être suffisamment moins dense que l'environnement, et hop, elle va moins dense que ce qu'il y a au-dessus, et elle monte. À partir du moment où elle monte, elle ne touche plus la plaque chaude, donc sa température reste constante. Et vous avez un courant descendant et un courant montant, et la température dans le gros de la casserole est constante. Vous avez donc ici ce qu'on appelle la couche limite thermique, c'est là que l'eau est au contact du chaud ou du froid, il y a deux couches limites thermiques ici, qu'elle échange de la chaleur, qu'elle se refroidit ou qu'elle se réchauffe, qu'elle acquiert une densité supérieure ou inférieure au gros de la masse, alors il y a mouvement. Et dès qu'elle quitte les couches limites thermiques, il n'y a plus d'échange de chaleur, donc la température est quasiment constante. À l'effet, ce qu'on appelle la décompression ou la compression adiabatique près, effectivement, si de l'eau descend, elle se comprime un petit peu, donc ça réchauffe un petit peu, mais c'est presque négligeable. C'est pour ça que quand vous faites cuire des nouilles, et que ça ne colle pas au fond, parce que ça attache bien, les nouilles, qu'elles soient en bas, au milieu ou en haut, cuisent de la même façon. Parce que la température est constante dans votre casserole. Parce qu'il y a des mouvements. Donc la notion de couche limite thermique est capitale. Ça fait partie de la cellule de convection. C'est là que tout se met en branle, si je puis dire. C'est là que s'échange la chaleur. Et passé un certain seuil de différence de densité, ça descend ou ça monte. Donc une couche limite thermique, ça fait partie de la convection. C'est la partie supérieure ou inférieure. C'est là que s'effectuent les échanges de chaleur par conduction. Et la matière des couches limites thermiques monte ou descend à température quasiment constante. Alors déjà, vous vous imaginez hein, ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Eh bien, c'est la couche limite thermique supérieure des cellules de convection du manteau. C'est la meilleure définition, à mon avis, de la lithosphère océanique. Alors, une image pour montrer que ça va, la couche limite thermique est souvent très mince. Vous avez une route un goudron sombre, du soleil. Le goudron sombre absorbe la chaleur. Et il va réchauffer l'air qui est juste au-dessus. Dès que l'air est juste au-dessus, il va se chauffer et hop, il va monter. Et les insectes, les oiseaux profitent abondamment de ces petites cellules de convection, je ne parle pas des grandes cellules, des petites cellules. Mais en bas, il y a quand même un fort gradient thermique sur bon, 1 cm. Or, un fort gradient thermique de 1 cm dans l'air, ça fait changer l'indice de réfraction de l'air sur une petite épaisseur. Et ça permet à la lumière de se réfléchir, et c'est l'origine des phénomènes de mirage. Ça, c'est un mirage, c'est pas une flaque d'eau. C'est un mirage parce qu'il y a une couche d'air surchauffée de peut-être 0,5 cm d'épaisseur. Alors, il y en a une partie qui monte, mais elle est renfermée. Et il y a ça. Alors, j'avais écrit des livres de quatrième quand j'étais jeune. On faisait des choses en quatrième à l'époque. Maintenant, on apprend à souligner les mots importants pour ceux qui savent lire. Mais à l'époque, alors évidemment, j'expliquais pas de gradient adiabatique, mais je voulais qu'est-ce qui se passait. Vous avez une plaque chauffante, source de chaud, des glaçons, source de froid, et voilà ce qui se passait. Donc c'était très chaud en bas, sur une petite épaisseur, froid en haut, sur une petite épaisseur, et il y avait ces mouvements. J'aime bien l'histoire, ça c'est un des vieux cours que je faisais dans les années 90. Alors c'était des transparents que j'ai retrouvés, j'ai scanné mes transparents. C'était la même chose, hein. 90, ça fait déjà 30 ans. Vous avez une casserole, une résistance chauffante, de l'air à 20 degrés, de l'eau, et si on mesurait la température, ce machin-là, ça se mesure, vous prenez une sonde thermique, hein, c'est une manip que vous faites, vous enfoncez une sonde thermique dans votre eau et vous mesurez un gradient thermique qui fait ça. ça c'est la température. C'est un TP qu'on doit pouvoir faire en physique, sans aucun problème. Et voilà, j'ai dit, on aura dans ce cas-là une couche limite supérieure, une couche limite inférieure, une température constante dans le 95% de la casserole. On peut... C'était maladroit ce schéma parce que je montrais bien la source de chaud, résistance chauffante. Là, R à 20 degrés, j'insistais pas sur le fait que c'est la source de froid. Parce que 20 degrés, c'est pas froid. Donc c'est un peu maladroit. Or, pour qu'il y ait convection, il faut une source de chaud, une source de froid. Si vous chauffez mais sans refroidir, la température monte et puis la casserole explose. Mais... On peut faire hein, toujours un de mes vieux schémas, une convection à deux couches. Alors, par exemple, la terre, ça pourrait être le noyau et le manteau. Donc, pareil, alors dans ce cas-là, si vous avez une source de froid en haut, une source de chaud en bas, vous avez ça comme évolution de la température, vous avez trois couches limites thermiques, une en bas, une en haut, et une au milieu, sous réserve que les deux liquides ne soient pas miscibles, évidemment. De l'eau et de l'huile, ça va. Si vous prenez de l'eau et de l'alcool, ben, ça ne marchera pas. Même si vous arrivez à mettre de l'eau en bas, de l'alcool en haut, si vous chauffez, ça se mélangera. Même si vous ne chauffez pas, par simple diffusion, mais ça mettra longtemps. Alors avec PowerPoint, on peut mieux visualiser, plutôt que je mets glace, c'est moins maladroit, ça c'est pas faux, mais c'est maladroit, j'insiste pas sur la source de froid, là, j'insiste sur la source de froid. Et la source de chaud est toujours là. Donc, c'est ça la convection. Différence de température à l'envers, si je puis dire. Froid en haut, donc dense en haut, et chaud en bas, donc moins dense en bas. Il y a deux cas extrêmes de convection thermique. Le cas que je viens de vous dire, c'est chaud en bas, c'est froid en haut, le chaud monte, le froid descend. C'est théoriquement parfaitement symétrique. S'il y avait un daltonien qui inverse le bleu et le rouge, et si je renversais le vidéoprojecteur, vous ne verriez pas la différence. C'est la même chose, c'est symétrique. La descente est active, parce qu'elle est plus dense. J'ai mis une cascade, la descente est active. La montée est active parce qu'elle est moins dense. J'ai mis un jet d'eau avec une pompe forte. Ça, c'est le cas classique. C'est celui à laquelle pensent les gens. Il y a une deuxième possibilité qui est souvent ignorée par l'éducation nationale. C'est un refroidissement par le haut. De toute façon, dans la Terre, on sait que c'est refroidi par le haut. Le fond de l'océan est à quelle température, le fond de l'océan ? J'entends pas.
4 degrés.
Plutôt, ça dépend. 4 degrés, c'est la température de l'eau la plus dense quand elle est douce. Quand elle est salée, ça doit être entre 0 et 4, je ne sais plus la valeur, mais c'est froid. Quand je pose une question, répondez, et surtout fort. Commencez pas à répondre comme ça pour que je vous fasse répéter, on gagne du temps. Vaut mieux hurler une bêtise que marmonner une chose intelligente. Je ne prends pas de notes. Donc, il peut y avoir un chauffage interne. Alors, si on voulait faire une manip, ça c'est facile, vous prenez une casserole, vous chauffez par en bas. Là, par exemple, il faudrait que vous preniez un liquide et que vous mettiez en solution dans votre liquide des sels de radium très radioactifs qui chauffent dans l'intérieur. Pas facile à faire dans l'éducation nationale. C'est interdit, pour une fois, l'interdiction serait légitime. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si vous prenez un liquide qui est conducteur de l'électricité, si vous mettez des plaques conductrices, si vous faites traverser le liquide par un courant électrique, il va être chauffé par effet Joule. Mais c'est pas facile à faire comme manipulation, donc l'éducation nationale n'en parle pas. C'est le chauffage interne. Alors dans la vie de tous les jours, c'est pas facile, mais dans la nature, c'est la radioactivité interne du manteau, par exemple. Donc ça, c'est facile. Le chauffage interne est diffus. Par contre, la surface, la Terre est froide. Donc, ça chauffe pas plus ici que là, il n'y a pas de chauffage localisé, ça chauffe partout. Ça refroidit par le haut, donc le haut qui se refroidit devient plus dense, donc il descend. Puisque le haut descend, ça fait du vide quelque part par là, et ça remonte pour boucher le trou. Mais ici, ça n'a pas de raison, plus de raison de monter qu'ici, parce que comme le chauffage est interne et diffus, c'est pas plus chaud ici que là. Ça monte simplement pour boucher les trous. Alors, dans ces deux cas, au centre des cellules de convection, il n'y a quasiment pas de mouvement. C'est normal. Ça descend parce que c'est dense, ça monte parce que c'est moins dense. Là, la température est constante, donc la densité est constante. Donc, il n'y a pas de raison que ça bouge. Alors, si ça bouge, c'est peut-être que la température n'est pas tout à fait constante, hein, l'égalité, la perfection n'est pas de ce monde. Et puis surtout, si, mettons qu'ici ça descende, ça descend. Donc ça va un peu entraîner mécaniquement ce qu'il y a là. Mais ce qu'il y a là, il va descendre, non pas parce qu'il a envie de descendre, c'est parce qu'il est entraîné par ce qui est à côté. Idem, ici ça va monter, non pas parce qu'il a envie de monter, mais parce que c'est entraîné par ce qui monte. Les mouvements ici sont causés par les mouvements des couches limites thermiques. Ils n'en sont pas la cause, ils en sont la conséquence. Et c'est pareil ici. Les mouvements internes, s'il y en a, ils sont la conséquence des descentes et non pas la cause. Et là, dans ce cas-là, seule la descente est active. C'est-à-dire, si vous confondez le rouge et le... D'ailleurs, il n'y a pas de rouge et le bleu, et si je retourne, ça ne marchera pas. Donc, vous avez deux cas extrêmes. Le cas de tous les jours, avec pas de chauffage interne, c'est typiquement le cas de l'atmosphère, qui n'est pas chauffée. Il n'y a pas de radioactivité interne à l'atmosphère, sauf au-dessus de quelques centrales thermiques, ni nucléaires. Donc, il y a de la convection, comme ça. Et puis, vous avez la Terre, où il y a un chauffage interne à cause de la radioactivité naturelle. Les couches limites thermiques, il y en a une en haut, une en bas dans ce cas-là, et là il y en a une en haut et il n'y en a pas en bas. Et il peut y avoir une troisième possibilité, c'est un mélange des deux. Avec toutes les proportions que vous y pouvez imaginer. Par exemple ici, si vous mettez toujours un refroidissement par le haut, la Terre, on n'en sortira pas, mais un chauffage interne majoritaire, largement supérieur à 50%, mais un petit peu quand même par le bas. Si le noyau, par hasard, avait une température supérieure au manteau, ça chaufferait un peu. Donc, vous avez une forte descente, bien active, et une petite remontée, active, mais plus petite. Et puis, vous pouvez faire tous les intermédiaires possibles. Dans ce cas-là, les couches limites thermiques, vous avez une grosse en haut, une petite en bas. Et vous pouvez panacher tout ce que vous voulez. Donc, rappel des deux cas extrêmes et d'un cas intermédiaire. J'ai dû de vous dire que vous avez reconnu la Terre, hein. C'est ça. Qui n'avait pas reconnu la Terre? Avec les subductions, les dorsales et les points chauds. Question? Alors, résumons. Qu'est-ce qui est mis en mouvement? Qu'est-ce qui met en mouvement la surface? La surface, c'est la couche thermique. Une couche limite thermique supérieure. Le premier cas, c'est celui-là. La couche limite thermique est tirée et poussée à la fois. C'est un train avec une locomotive devant et une locomotive derrière. Qu'est-ce qui met en mouvement la couche thermique, limite thermique supérieure dans le deuxième cas? C'est un train qui n'est que tiré, mais pas poussé. Des questions? Vous êtes remarquablement muet. Alors, on peut faire des simulations numériques de ce machin-là, ou des simulations analogiques. Alors, les simulations analogiques, on en fera une ou deux, là, mais c'est vraiment pas facile, surtout en temps limité de leçons. Simulations numériques, pour pas les faire, mais on peut en trouver sur le web. Alors là, je vous ai mis une adresse. On va voir la première simulation numérique. C'est chauffer par en bas, refroidi par en haut. Le chaud monte, le froid descend, c'est symétrique. Alors là, c'est une simulation thermique, et c'est pas un dessin animé des gens qui ont colorié, c'est vraiment une simulation. Alors là, ils s'amusent à faire... Pourquoi il fait ça? On peut faire... La même chose, mais chauffé dans la masse et refroidi par en haut. Alors vous voyez, alors du froid qui descend, il y a plein de froid bleu qui descend, et il n'y a pas de rouge actif qui monte. Quand il y a des choses rouges qui montent, c'est pour boucher le trou. Là, il y a du froid qui descend. Et incessamment sous peu, je ne sais pas où, par là. On va rentrer dans la cellule, alors ça ne sera pas le même code de couleur, mais vous verrez le froid qui descend. Le froid sera en vert ou en bleu, je ne sais plus. Et le reste, qui est ici en là, est marqué en transparent, donc elle est un peu longue, là. On en pourrait raccourcir. Mais... c'est d'abréger. Donc, toujours pareil, le froid descend. Alors là, on rentre dedans. Et vous voyez, de l'intérieur, le froid qui descend. Et il n'y a rien qui remonte, si ce n'est passivement, pour compenser ce qui a descendu. Bon, vous avez vu, vous avez compris. Alors, ces trucs-là, il y a une source, je les ai pris il y a au moins 15 ans. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles sur le web, mais ils sont sur planète Terre. Donc, on peut les trouver encore sur un site qui n'est pas mort. Alors, on a vu, par exemple, au début, il y avait la brique qui était posée sur des braises, où il y avait une centrale nucléaire qui faisait un panache de chaleur. Dans un milieu, ici, indéformable, il n'y a pas de convection. Et dans un milieu déformable, il y avait la convection, rappelez-vous, le panache qui montait. Donc, là, la chaleur se transmet par diffusion, par conduction, par advection. Il y a plein de mots qui ne sont pas tout à fait rigoureusement synonymes. Quand vous aurez un cours sur la chaleur, je pense qu'on rentrera dans les détails. Ce n'est pas mon problème. J'appelle un peu ça de la sodomisation de diptères. Mais bon. Ce qui est la question, c'est des fois, ça marche comme ça, la chaleur se transmet par diffusion et des fois par convection. J'ai dit tout à l'heure, déformable, l'air, indéformable, la brique. On va essayer de préciser ça. Alors, c'est de la physique de la fin 19e, début 20e, tout ça. C'est, on va dire, Rayleigh qui a bien explicité et formalisé tout ça. Vous avez ici un milieu de densité moyenne et à viscosité non nulle. Si vous avez un objet de faible densité, il va monter. Si vous avez un objet de forte densité, il va descendre. Mais la montée et la descente va dépendre de la différence de densité. S'il n'y a presque pas de différence, ça ne va peut-être pas monter. Et puis de la viscosité. Si vous prenez une bulle d'air, ça monte très vite dans de l'eau. Si vous avez un miel épais, la bulle d'air, elle va monter très lentement dans le miel. Donc, il y aura mouvement si les forces qui s'opposent au mouvement sont inférieures aux forces qui créent le mouvement. Ce qui crée le mouvement, c'est la différence poids dirigée vers le bas, moins la poussée d'Archimède dirigée vers le haut. Si c'est négatif, ça monte. Si c'est positif, ça descend. Et ce qui... il peut y avoir une force de résistance. Grosso modo, il y a deux choses qui vont limiter le mouvement. Principalement la viscosité. Il faut que ça soit suffisamment mou, suffisamment peu visqueux, pour que ça bouge. Si c'est très visqueux... Alors attention, visqueux en physique, ça veut dire dur. Pour votre concierge, une confiture, c'est beaucoup plus visqueux qu'un granit, ou qu'un pavé. C'est l'inverse. Plus vous êtes dur, plus vous êtes visqueux. Un granit est beaucoup plus visqueux qu'une confiture. Un miel cristallisé, c'est plus visqueux qu'un miel liquide. Donc là, le sens du vocabulaire en physique est un peu l'inverse du sens du vocabulaire pour monsieur et madame tout le monde. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va favoriser les mouvements? C'est les différences de densité qui, dans le cadre de la convection thermique, c'est celle dont je parle, sera due aux différences de température. Plus la différence de température est grande, entre le milieu et une anomalie, plus il va y avoir une force descendante ou ascendante. Et puis ce qui va s'opposer au mouvement, c'est la force visqueuse, qui va une force de résistance, et puis aussi la diffusion de la chaleur. Imaginez que là, vous ayez quelque chose de très chaud, mais que le liquide soit très conducteur de la chaleur. La chaleur va pouvoir partir. Et rapidement, ce corps très chaud va se refroidir. Donc il ne sera plus très chaud. Donc la diffusion de la chaleur va diminuer l'écart de température, donc l'écart de densité, et donc va arrêter le mouvement. Donc la diffusion de la chaleur diminue ou annule les différences de température, donc les différences de densité. Et M. Rayleigh a formalisé tout ça en inventant un nombre qu'on appelle le nombre de Rayleigh. En haut, cette fraction, c'est un nombre sans dimension. Si vous mettez les unités de tout ça, vous voyez que les unités de tout ça, alors c'est les mêmes que les unités d'en bas. Donc c'est un nombre qui n'a pas de dimension. C'est par exemple, c'est le rapport entre deux masses, ça n'a pas de dimension. Alpha, c'est le coefficient de dilatation thermique. Quand vous chauffez, un corps se dilate. Donc il est moins dense. L'industrie métallurgique en particulier, ou les céramiques, ont inventé des corps qui ne se dilatent pas quand ça chauffe. Si vous avez un corps qui ne se dilate pas quand il chauffe, il a beau être plus chaud, ben il ne va pas être moins dense qu'avant. Donc, il est évident que si alpha est nul, il n'y aura pas de convection thermique. En général, dans la nature, alpha n'est pas nul. Il est faible, mais il n'est pas nul. Delta T, c'est l'écart de température entre votre anomalie, chaude ou froide, et le milieu ambiant. Plus l'écart de température est grand, plus l'écart de densité sera grand, donc plus on aura envie de bouger. G, c'est la gravité. Pour qu'il y ait un poids, une poussée d'Archimède, il faut qu'il y ait une gravité. Si un jour vous allez dans la station spatiale et que vous mettez une casserole sur le feu, enfin pas le feu, parce que le feu dans la station spatiale, c'est une plaque chauffante, on va dire. C'est terrible parce que la plaque chauffante va chauffer l'eau en bas. Enfin en bas, au fond de la casserole. Mais le fond de la casserole aura de l'eau chaude, elle n'aura aucune envie de monter. Donc l'eau sera de plus en plus chaude au fond de la casserole, elle sera toujours la température ambiante en haut. À un moment, le fond de la casserole va dépasser 100 degrés, la vapeur, l'eau va devenir vapeur, mais la vapeur n'aura aucune envie de monter puisqu'il n'y a pas de poussée d'Archimède. Ça va pas une... Vous aurez une couche de vapeur qui va projeter et tout va déborder. Si vous faites des nouilles dans la station spatiale, il faudra mettre un agitateur pour que... Sinon... Donc G est évident, si G est égal à 0, il n'y a pas de convection. D, c'est la distance entre le haut et le bas. Plus c'est grand, plus ça a tendance à convecter. Parce que ça, si vous êtes une toute petite couche mince, d'abord la chaleur va pouvoir bien passer par simple conduction. Plus c'est grand, moins la chaleur aura envie de passer par conduction. Et puis quand c'est tout petit, ça va faire plein de frottements. Si c'est grand, ça frottera moins. Et alors là, ils se sont aperçus, je ne peux pas trop vous dire pourquoi, que la taille de la cellule, enfin la hauteur, comptait vraiment beaucoup. C'est même pas au carré, c'est au cube. Et puis qu'est-ce qui défavorise les mouvements? C'est la viscosité. Plus la viscosité était grande, moins ça bouge. Donc c'est au dénominateur. Et c'est kappa, la diffusivité thermique. Plus un corps diffuse bien la chaleur, moins ça a envie de convecter. Donc ça, c'est les facteurs qui favorisent la convection. Et ça, c'est les paramètres qui défavorisent la convection thermique. Eh bien, quand ce nombre de relais est inférieur à 1000, ça ne convecte pas. Quand ce nombre de relais est voisin de 2000, c'est une valeur critique. J'ai mis ça frémit, ça ondule. C'est poétique, c'est pas très physique, hein, ça. Si ça devient supérieur à 2000, eh bien, ça c'est des simulations thermiques, ça convecte. Là, c'est 10 puissance 4, là, c'est 10 puissance 5, là, c'est 10 puissance 6, là, c'est 10 puissance 7, j'ai peut-être mis même 10 puissance 8. Plus le nombre de relais est grand, plus ça convecte vigoureusement, plus ça convecte de façon, je dis, anarchique, avec des guillemets. C'est pas régulier. Donc voilà ce que c'est que la convection thermique.